Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, 31, 32, 33, 34, 35 heures. 35 heures, c'est déjà trop de boulot.
Je voulais juste intervenir par rapport au décès de Yacimbe Yadema. J'ai appris uniquement hier matin qu'il était décédé. Et bon, j'ai préparé un petit speech parce que j'ai peur de cafouiller et ce que j'ai à dire est quand même assez important. Je vais parler de quelque chose que j'ai vu puisque à l'époque, je travaillais au Bénin dans un dispensaire. J'y suis restée quelques années. Donc on parle de président de la République togolaise au lieu d'utiliser le terme plus adéquat de dictateur. La plupart de mes amis togolais engagés politiquement ont dû fuir pour sauvegarder leur famille et certains ne sont pas retournés depuis presque 20 ans. Car savez-vous ce qui est arrivé aux opposants du régime? D'abord, ils étaient torturés. Puis les nettoyeurs de ce cher ami de la France allaient dans le village d'origine, rassemblaient une partie du village dans quelques cases au milieu et les brûlaient sous les yeux effrayés de l'autre partie du village. J'étais volontaire à cette époque. Je travaillais donc dans un dispensaire, comme je l'ai dit. J'ai vu des hommes, des femmes, des enfants mutilés, torturés avec des regards sans vie. Pendant quelques mois, nous avons eu quelques camps de réfugiés. Mais qui en a parlé? Ou plutôt, qui a osé relayer les témoignages de ceux qui vivaient ça? Personne. Même sur Radio France Internationale, il n'y a rien eu de dit. Aujourd'hui, les médias parlent de l'entente franco-togolaise et de l'amitié Chirac et Yadema. Alors attention, je ne veux pas défendre notre actuel président. Même, bon, je ne pense pas qu'il soit meilleur que le précédent. Et en même temps, ce n'est pas parce que le précédent est mort qu'il ne faut pas révéler ses méfaits. C'est quand même Mitterrand qui a conforté la position de Yadema au pouvoir. Et sur certaines photos, qui voit-on aux côtés de Yadema en posant la main sur l'épaule du dictateur? Jean-Christophe Mitterrand. Eh oui, combien d'entre vous savent que la famille Mitterrand avait des intérêts à défendre dans ce pays, que l'exploitation des mines de potasse de la famille était plus importante que la vie des habitants? Enfin, je suis écœurée parce que à l'époque, même les dénonciations faites par Amnesty International ou l'ACAT, qui est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ont été étouffées. Enfin, juste, si un jour vous avez le courage de faire une émission sur la politique africaine sous l'ère Mitterrand et faire savoir au peuple français toutes ces vilaines choses que notre cher tonton et son fils se sont bien gardés de nous dire, ce serait vraiment super. Merci à tous et au revoir.
Ben oui, c'est juste pour laisser un message. Ma foi, je trouve lamentable que tout le monde soit pessimiste, ne dise que des âneries. C'est terrible. Est-ce que l'on peut pas un peu dire des choses plus agréables, d'être moins violent, d'être plus, je ne sais pas moi, mais plus gai, plus moins rancunier, moins revanchard, moins de tout quoi. Après l'excellente émission de musique précédente, présenté par le non moins excellent, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur, mais c'est extraordinaire cette émission. Et là, on retombe dans la médiocrité, dans la méchanceté, dans vraiment ce que je déteste le plus au monde. Mon Dieu, soyons plus tolérants. Voilà, c'est tout.
Daniel Fallot, magistrat Tarascon. Je viens d'entendre l'émission sur la prévision de ce soir et je rappelle que le syndicat de la magistrature, il y a quelques années, s'était prononcé pour l'abolition de la prison et j'espère que c'est un objectif que nous atteindrons si la société veut vivre mieux avec ses délinquants et s'en sortir. Voilà, bravo pour l'émission. Au revoir.
Je viens d'écouter l'émission là qui parlait de la prison, entre autres. Bon, je l'ai prise en cours, alors j'ai peut-être pas entendu toutes les interventions. Mais c'est dommage, j'aurais aimé entendre un CIP, un conseiller d'insertion et de probation, pas uniquement un surveillant et des anciens détenus. Parce que c'est quand même important d'entendre ce qu'ont à dire les personnes qui travaillent avec les détenus sur leur réinsertion. C'est des personnes dont c'est le boulot quand même, et on les entend jamais, les CIP. On dirait qu'ils n'existent pas. que ce soit dans ton émission ou dans toutes les autres émissions consacrées à la prison en long, en large et en travers. Alors moi, je viens d'intégrer l'administration pénitentiaire, j'ai passé le concours de CIP. Et c'est vrai que c'est dur de travailler sur la réinsertion, mais on y travaille. Alors entendre que rien n'est fait pour la réinsertion, ben c'est pas très agréable. On sert à quoi, nous, alors? Voilà, c'était Clémence et j'adore cette émission. On vit à la base si j'y suis. Merci beaucoup. Hein. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel, c'est par rapport à l'émission de ce soir sur les prisons. J'aimerais savoir où tu as trouvé ce maton, parce que moi j'ai mon homme, ça fait 12 ans qu'il est derrière les barreaux, et on a rencontré peut-être deux matons comme ça, et encore dans leurs beaux jours. Donc celui-ci, ce serait bien qu'il se reproduise, ou alors qu'il donne des cours. Et il faudrait savoir aussi que la société avec la prison telle qu'elle est, parce que c'est une prison de miséreux, de malheureux, elle se met en danger, et lorsque les mecs sortent, c'est sûr que c'est des vrais bêtes fauves. Mon mari est rentré, c'était un homme tranquille, même s'il avait fait une bêtise, et il était tranquille, il n'était pas agressif. Et maintenant, de temps en temps, j'ai vraiment quelque chose de violent en face de moi, que je ne connaissais pas avant. Donc si je n'étais pas là, ce ne serait pas une violence canalisée, ça serait une violence explosée. Je te remercie Daniel, et il faudrait que tu parles aussi de cette fouille ministérielle qui a lieu dans toutes les prisons actuellement, où on traite les gens pour comme des moins que rien. Et là, la France est aussi première dans les droits de l'homme bafoués. Bonsoir et à bientôt.
Bonjour Daniel. Depuis quelques jours, j'ai toujours peur de m'être trompé de longueur d'onde en allumant ma radio. Je crois être sur France Inter et paf, je tombe sur Radio Vatican. On a des nouvelles du pape régulièrement. Oxygène, pète travers, ça va pas, ça va mieux, il parle, on l'enregistre, est-ce bien lui ? Figure-toi que je préférerais avoir des nouvelles de tous ceux qui crèvent du sida, pas forcément à cause de lui, mais quand même, il fallait oser dire qu'en Afrique, que l'abstinence était mieux que le préservatif. Alors qu'un homme meurt, c'est bien triste, mais que des millions meurent dans l'indifférence totale, c'est autrement plus révoltant. Salut.
Eh ben oui, vous avez entendu, c'est le message du pape sur le répondeur de la basse Sigiflio au 01 56 40 37 37. On ne sait pas si c'est lui-même qui a fait le numéro, mais en tout cas, c'est le message papal, le tout dernier message du pape. Aujourd'hui, up or out. Up or out, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais, up or out, et ça veut dire en haut ou dehors. Ça veut dire tu grimpes ou tu te casses, ça veut dire tu marches ou tu crèves. Et vous allez voir comment, et vous allez en baver jusqu'à 18h, mais à la fin, ça va être très très chouette, jusqu'à 18h, on work hard, et à 18h, on play hard. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et ben avec Olivia Gesbert, on va vous en dire plus. Pas mal de réactions aussi sur le reportage d'hier, le reportage de François Ruffin sur non pas la prison d'Amiens, mais avec Luc, gardien de prison syndicaliste à Amiens. C'est un sujet qui vous a bien fait réagir. Donc up or out. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'était Laurent de Winsenheim. Donc, moi, je voulais vous raconter une belle petite histoire que j'ai lue hier dans un magazine. Ça me fait bien rigoler parce que c'était un propos de monsieur David Jean et de monsieur Alain Madelin durant leur jeunesse. Voilà, voyou casseur d'un groupe d'extrême droite appelé Occident, pour aller casser la gueule à ceux qui mettaient les pièces de Jean Genet, quoi, les acteurs, leur foutre la trouille, un coup de barre de fer, voilà, donc casseur à 20 ans, ministre à 50 ans, puis hier soir, monsieur David Jean faisait le fanfaron à Mulhouse sur les entreprises, donc je voulais savoir un petit peu quel était son positionnement par rapport à tous ces jeunes issus, entre guillemets, de l'immigration. Voilà. Mais je vous embrasse. Au revoir.
Vous m'écrivez qu'on vient de supprimer le petit train d'intérêt local qui, les jours de marché, passait couvert de poudre et les roues fleuries de luzerne devant le portail des casernes et des couvents. Nous n'avions jamais vu la mer, mais de simples champs d'herbe couraient à hauteur de nos yeux, ouverts dans les jonquilles. Et nos effrois, c'étaient les têtes de cire du musée, le parc profond, les clairons des soldats, ou bien ce cheval mort pareil à un buisson de roses. Des processions de fois la voix nous guidaient vers les petites gares, aux vitres maintenant crevées, abandonnées sans rail à l'indécision de l'espace et à la justice du temps qui relègue et oublie tant de bonheur désaffecté sous la ronce et la rouille. Depuis, nous avons vu la mer surgir à la fenêtre des rapides et d'autres voix nous ont nommés, perdus en des jardins. Mais votre verger a gardé dans l'eau de sa fontaine le passé transparent d'où vous nous souriez toujours, les bras chargés d'enfants et de cerises. Je pense au jour d'été où vous n'osiez ouvrir un livre à cause de ce désarroi de cloches sur les toits. N'oubliez pas, dites comme nos mains furent fragiles dans la vôtre. Et qu'ont-il fait de la vieille locomotive ?
C'est rempli ta timesheet pour dire combien de temps t'as travaillé cette semaine. Tu vas cruncher du chiffre pour dire que tu vas constituer des bases de données. Le staffing est bon pour dire qu'on a un bon encadrement. On a un conf call. Ramène ton laptop pour parler d'ordinateur portable.
Je suis un repenti, ou en tous les cas, je serai un repenti quand j'aurai changé de travail, dans le sens où j'aurais contribué à un système qui, à mon avis, est vraiment, vraiment condamnable. Je parle d'un système condamnable pour l'exclusion qu'il génère et pour la misère et la détresse qu'il génère.
Je me nomme Merci Jean-Marc. J'ai entré dans les établissements Le Vert le 5 avril 71. Donc cette année, ça aurait fait 33 ans d'ancienneté. Et voilà, on est arrivé à un point qu'on a été licencié. Ils ont fait des bénéfices, ils nous ont pris, ils se sont servis de nous. Bon, ils nous ont lâché à un âge comme moi qui est vraiment critique. Puis bon, ben nous, on est même plus sur le marché de l'emploi parce qu'il n'y a plus personne qui veut de nous. Je vous dis, je vais avoir 55 ans au mois d'août. Je vois pas un entrepreneur me prendre, faire une formation et puis sachant très bien que 2-3 ans après, c'est la retraite, quoi. Donc il va pas s'emmerder avec nous.
C'est le visage invisible du capitalisme. Ce sont des professions qui au final, tirent parti du système, du moins pour quelques-uns, et tout le monde espère y arriver, et qui vivent dans l'ombre, dans la discrétion. C'est un capitalisme qui est à la fois policé et violent. C'est un milieu qui est trop éloigné de la réalité du plus grand monde pour prendre conscience des conséquences très dures de ces décisions.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bessie J'y suis avec Olivia Gesbert. Up or out.
Flight number 2, arriving from.
Donc on a choisi cet endroit parce qu'on s'est dit que c'était en bas de l'immeuble d'Accenture. Alors Accenture, c'est une des grandes boîtes de conseil mondiales, anciennement Andersen Consulting. Et on s'est dit que on trouverait ici vers 7 heures du soir des consultants en train de boire un verre après leur journée de travail et que ça nous mettrait un peu dans l'ambiance intéressante sur le milieu.
Très ordinaire hein, comme situation, comme voix. C'est une voix d'une femme normale, rien d'extraordinaire. Hein. On est dans un endroit ordinaire. Et pourtant, ce rendez-vous a été très difficile à mettre au point, figurez-vous. Et ce qui va être dit là, c'est ça se dit en douce. C'est effectivement, comme ça vient de l'être indiqué, un visage invisible du capitalisme que nous allons essayer avec Olivia de vous montrer. Quel visage ? De qui on parle ? Eh bien, de ceux qui, vous avez entendu, le plan social, Uni Le Vert, ce salarié d'Uni Le Vert qui s'est fait virer. Ça, c'est une voix qu'on a entendue depuis des années dans cette émission et ailleurs. Les victimes des plans sociaux, des restructurations, ça fait des années et des années qu'on dépeint ce genre de catastrophe, avec les victimes, les différents acteurs, le représentant syndical, les gens absolument consternés, qui tirent un peu la couverture à eux, l'élu, le préfet. Mais jamais ceux qui ont fait ce plan social, ceux qui l'ont conseillé, ceux qui l'ont mis en œuvre, appliqué. Très difficile. Très difficile. C'est un monde, comme on vient de le dire, je le répète, un monde invisible, un visage invisible du capitalisme. Là, c'est le milieu des consultants, le consulting, le milieu de l'audit qu'on va rencontrer aujourd'hui, et c'est difficile. Ils ont accepté de nous parler. Elle s'appelle Aubépine, il s'appelle Olivier, dans ce café, bar, cossu, d'un quartier qu'ils connaissent bien, en bas d'un immeuble dans lequel ils ont travaillé longtemps et dont ils sont sortis il y a peu de temps. Ils nous expliquent ce qu'est ce monde, celui d'une grande société qui maintenant a fermé, a fait faillite, on peut dire, il y a peu de temps, qui s'appelait Andersen, c'est-à-dire une des grandes entreprises mondiales de consulting. Andersen, 80 000 salariés. Ils y ont travaillé, ils savent de quoi ils parlent et ils en sont sortis. Ils ont très peu à en être sortis et à oser parler. Ils sont donc out.
J'ai grandi dans une famille, je sais pas si je peux dire, notable de province dans le nord de la France. Puis peu à peu, je me suis dirigé vers la finance. J'ai fait un master d'économie en Grande-Bretagne. J'ai fait un DESS de finance. Puis aussi parce que l'excitation était très forte à l'époque du boom boursier et la forte croissance de la fin des années 90, j'ai voulu rejoindre la City à Londres et donc le milieu bancaire. C'était le genre de boulot, tu voyais ton action à la une du Financial Times. Et puis, c'est vrai que commencer sa carrière avec 40 000 balles par mois, c'est assez excitant quand on a 23 ans. Je dois dire en plus qu'il y avait un côté, c'est l'aventure, c'est un peu la flibuste, t'es jeune, t'y vas. Tu risques tout, tu gagnes beaucoup. C'est un monde sans pitié. Enfin, tu prends des coups, tu les rends, voilà. J'ai pris des coups, effectivement, je me suis fait virer. C'est vrai que c'était étrange parce que depuis plusieurs jours, les gens des ressources humaines travaillaient tard. Ils avaient placé des colosses devant des vigiles devant leurs imprimantes, ce qui n'était pas habituel. Et on est venu me chercher, on a dit, oui, il y a le directeur des ressources humaines Europe qui a envie de te voir. Comme j'étais quand même le larbin de base, je trouvais ça assez étrange. Il m'a accueilli dans son bureau, il m'a servi un discours. Oui, on a décidé de redimensionner nos équipes, comme tu es au courant. Et malheureusement, alors là, il met la main sur l'épaule. Malheureusement, tu fais partie du plan. Les gens qui peut-être présentaient plus de difficultés ou d'enjeux pour la boîte ont été priés d'aller directement à la sortie où un vigile les attendait avec leurs affaires dans un sac poubelle. Franchement, quand on gagne des salaires comme ça, on n'est pas à plaindre. Celui qui avait un an d'expérience partait avec un chèque de 250 000 francs, c'est pas terrible dans le fond. Après ces quelques mois de chômage, j'ai rejoint un des Big Four, comme on dit. Et là, ça a été vraiment le désenchantement, puisque j'ai compris qu'il allait falloir servir un système qui me déplaisait de plus en plus.
Au 33e étage, la vue est si belle, je me sens pousser des ailes. Au 38e étage, c'est vraiment génial, c'est la direction générale. Au 34e étage, ils sont à Tillon, c'est le contrôle de gestion. Au 36e étage, ils sont pas peu fiers, c'est la direction financière. Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable du siège éjectable. 33e étage, c'est déjà pas mal pour mon âge. au 28e étage, pour un bon piston, c'est la communication. Au 35e étage, la clim est en rade, 35 degrés centigrades. Au 29e étage, sur eux tu peux compter, c'est la comptabilité. Et au 2e étage, c'est les moins que rien, c'est le service entretien. Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable, les sièges éjectables. 33e étage, c'est déjà pas mal pour mon âge. Mais depuis qu'on se fait racheter par la tour d'à côté, j'ai du mal à motiver. L'assistante du DRH me mate d'un air bravache. Mais depuis qu'on a couché, je peux plus rien lui demander. Entre cadres, quand on discute, c'est pour savoir si l'action chute et combien on peut toucher comme indemnité.
Là, on est vraiment dans le spirit of Enron. Il y a tout un tas de petits objets publicitaires qui rappellent et qui évoquent ce que fut Enron. Alors, ce que fut Enron, c'est d'abord des valeurs. Des valeurs qui étaient le respect, l'intégrité, la communication et l'excellence. Voilà, là, il y a un petit dépliant publicitaire qui explique Our vision, our values. Là, on a des petits jeux de cubes qui jouent avec ces valeurs, c'est-à-dire le respect, je vous rappelle, l'intégrité, la communication et l'excellence. Et là, il y a un jeu d'anneaux, rouge, vert et bleu, qui joue avec les mots excellence, communication, intégrité, respect.
Voilà, ça c'était en mars 2002 à Houston, Texas. Nous étions dans le building de Enron, un building désert dont les salariés avaient été virés exactement comme Olivier vient de nous le dire, en retrouvant leurs affaires sur leur bureau, dehors, dans une petite boîte en carton, la photo des gosses, les affaires dans le bureau. Virés, ils ont été virés en une demi-heure, les salariés de Enron. Vous vous souvenez de ces reportages et de cette affaire, le plus grand scandale financier de l'histoire des États-Unis. Et Andersen, à la fois conseil et audit d'Enron, a été mouillé dans cette affaire pour des malversations. Et évidemment, les autres agences Enron à travers Andersen à travers le monde ont dû changer d'enseigne, quoi. On s'appelle comme maintenant autrement, mais le boulot n'a pas changé, le sens du travail n'a pas changé et les procédés n'ont pas changé. C'est effectivement un monde invisible et un monde virtuel puisque tout est tellement naturel, naturellement, on nous l'a dit, répété vendredi, ça va de soi, tout ça est évident, donc il n'y a pas à discuter. Il y a quand même des choses qui se passent, il y a quand même des gens qui pensent, qui réfléchissent, et tout ça, il y a des idées, il y a de la chair, il y a des corps, on en parlera, qui sont domestiqués, qui sont livrés à certaines violences et à certaines pressions. Violence, des échanges en milieu tempéré. C'est un film absolument formidable de Jean-Marc Moutou qui s'attache à raconter ce monde du consulting et de l'audit. Et qui prend évidemment comme sujet à peu près des personnages ou des personnes comme ceux et celles, aubépines, avec qui nous nous trouvons au moment où il faut se mettre les pattes dans le cambouis, c'est-à-dire appliquer, mettre en œuvre un plan social avec tous les problèmes que ça pose de conscience ou pas. On n'est pas obligé du tout de venir dans ces endroits, dans ces bureaux et dans ces boulots avec sa conscience.
C'est un monde qui est à la fois très feutré et très violent, puisque c'est des beaux bureaux, tout le monde est en costume, les réunions se font dans des belles salles lambrissées avec des belles tasses de café, etc. En arrière-plan, les relations sont quand même assez violentes entre les individus.
C'est un milieu où l'apparence a énormément d'importance. Et déjà, on pourrait se dire, bon, l'apparence vis-à-vis du client, ça c'est normal parce qu'on a une image à imposer, mais l'apparence vis-à-vis de ses pairs, c'est-à-dire vis-à-vis de ses collègues. Ben, on répète souvent qu'il faut être proactif, qu'il faut dégager une certaine énergie, même une énergie assez féroce. Pas mal de gens qui travaillent dans ce milieu-là se voient comme des héros de la vie quotidienne, dans le sens où ils mènent une vie très exaltante, avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de conflits, beaucoup de stress. Alors la figure opposée à ça, c'est la figure du fonctionnaire qui fout rien, qui passe 2 heures à manger, qui part à 5 heures le soir, qui fait ses 35 heures, etc. À l'opposé de ça, on a le consultant, quoi. C'est le mec qui est toujours avec son glaive tendu comme ça, prêt à affronter n'importe quel dragon, prêt à dégainer son ordinateur portable, prêt à faire une conférence call à 11h du soir, prêt à tout, quoi. Un consultant junior, c'est-à-dire quelqu'un qui a 25 ans et qui sait pas faire grand-chose, il coûte 10 000 francs par jour.
Pour le client.
Pour le client, oui. Du coup, le consultant ne peut pas se permettre d'être pris en défaut. C'est absolument impensable. Et dans ces cas-là, sa défense, c'est l'attaque. C'est un milieu qui produit beaucoup d'agitation, qui affiche beaucoup d'agitation, ça c'est important. Mais stimulation intellectuelle, ça non, j'ai pas trouvé.
Oui, et puis le travail prend tellement de temps que, effectivement, on est toujours entre collègues, puisqu'on finit par sortir aux mêmes endroits, aux mêmes heures, dans les mêmes boîtes, les mêmes bars, comme ici ce soir. C'est un milieu dans lequel il y a tout un vocabulaire, ou plutôt tout un jargon qui est un peu inspiré clairement inspiré des entreprises anglo-saxonnes. Alors, c'est rempli ta timesheet pour dire combien de temps t'as travaillé cette semaine. Tu vas cruncher du chiffre pour dire que tu vas constituer des bases de données. Le staffing est bon pour dire qu'on a un bon encadrement. On a un conf call, ramène ton laptop pour parler d'ordinateur portable.
D'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle le Bullshit Bingo. Tu connais ? Les gens ont inventé ce jeu qui s'appelle donc le Bullshit Bingo. Ça se joue quand on est en réunion. Il y a un certain nombre de mots qui vont être employés. Donc à chaque fois qu'un mot est employé, on coche le mot sur sa feuille qu'on a préalablement préparée. Et le premier qui a coché tous les mots qui sont sur sa feuille lève la main et crie « Bingo !» Voilà. Et puis, je pense aussi que ça fait classe de parler en anglais. Ça fait expert, ça fait... je sais pas, ça, c'est plus glamour. Ça donne quelque chose de... Au-delà de ça, je pense que c'est aussi une référence au monde anglo-saxon et au fait qu'on est français, mais on rêve d'être américain, quoi. On rêve, on a l'image mythique de l'homme d'affaires américain... Ah voilà, ça c'est... Effectivement, tu vois, il a l'air vachement soucieux, il marche en baissant la tête, il est tout maigre, il a son bras droit qui est alourdi par sa sacoche. Sa sacoche où il y a son ordinateur portable, et on sent que là, il est quelle heure ? Il sort vachement tôt, là, il est 7h du soir, tu sais qu'il va bosser ce soir, c'est assez typique.
Walk out, play out. Walk out, play out. Thank you. Thank you, man. Thank you. Bien, merci à tous d'être là pour ce rassemblement important de MacGregor Consulting.
Comme j'ai eu le tort de passer par une maîtrise de philo, personne n'est parfait, on m'a demandé de rappeler ici le sens profond de nos valeurs. Le monde entier repose sur la croissance économique. Malheureusement, peu de décideurs ont aujourd'hui une approche pertinente de la croissance. Les vues à court terme, les conservatismes, les lobbies entravent régulièrement une concurrence saine qui permettrait à tous de se développer, de travailler. Nous, à McGregor, nous voulons libérer le monde de ses contradictions. Nous avons confiance en l'avenir. Et les obstacles ne nous font pas peur. Car la conquête de nouvelles libertés a toujours été l'apanage de quelques-uns, les meilleurs. J'aimerais que nous reprenions ensemble notre devise « Walk hard, play hard ».
Walk hard, play hard.
Walk hard, play hard.
Work hard, play hard.
Walk hard, play hard.
Work hard.
Voilà, extrait du film « Violence des échanges en milieu tempéré » de Jean-Marc Moutou. Tout est dit dans cette intervention, à travers le discours de ce personnage. Et alors, il y a le philosophe, j'ai fait une maîtrise de philosophie. Ça, c'est, on est très, très friand de philosophes. Dans ces milieux, on tutoie, Derrida, comme Spinoza, Deleuze, Bourdieu à l'occasion, pourquoi pas. Enfin, on utilise, on se gave, de références, tout comme on s'habille d'une certaine façon, on vit dans un cadre qu'on vient de nous décrire, et toute la semaine on work hard, et le soir et en fin de semaine, surtout le vendredi soir, on play hard. On s'en lasse pas. Hein. Alors, quelqu'un qui a étudié cet univers d'une façon très, très, très pointue, c'est Vincent Petitet. Vincent Petitet, il est jeune, il a une petite trentaine. C'est un bac plus 12, plus 14, plus incroyable nombre de diplômes que ce garçon peut avoir. Et il a travaillé dans cette entreprise qu'il ne faut surtout pas appeler Andersen. Il faut surtout pas appeler cette entreprise Andersen. Il y a travaillé et de l'intérieur, il a fait une étude. Il a été conseiller, chargé de mission auprès du président d'Andersen France. Vous, ça vous dit rien, mais pour ce milieu-là, c'est très important. C'est des personnages auxquels ils accordent une très, très grande importance. Il a été donc le conseiller de ce président. Et comme il est, parmi ses diplômes, il a une maîtrise de sociologie, il s'est mis à faire une recherche sociologique tout à fait précise, tout à fait savante, tout à fait scientifique. Il vient d'obtenir sa thèse sur ce travail, une communication sur la domination dans les organisations, analyse d'un cabinet conseil international. Il prépare un roman actuellement, et il nous a expliqué dans quelles conditions il a enquêté, donc il a fait ce travail sur cette entreprise qu'il ne faut surtout pas appeler Andersen.
Donc tu entres dans cette entreprise Andersen, non pas Andersen, on va pas dire Andersen, on va dire
Merton.
Alors, il faut dire que c'est une entreprise très puissante.
Oui, c'est une entreprise qui a 80 bureaux dans le monde, qui embauche à peu près 80 000 personnes, dont 3 000 en France, et qui est implantée sur les 5 continents, avec des clients extrêmement puissants, extrêmement prestigieux, donc à une position financière vraiment de dominant total dans le monde des affaires.
Et cette entreprise était compromise avec Enron et a été emportée dans la faillite Enron.
Il y avait une endosmose abusive entre Merton et l'entreprise Enron. Ça veut dire qu'il y avait des certaines pratiques qui frôlaient un petit peu l'illégalité, parce qu'on mélangeait des missions de conseil et des missions d'audit. On était à la fois le garant des comptes de l'entreprise, mais en même temps, les entreprises, suite à des missions de conseil multiples, versaient à Merton plusieurs millions de dollars par an.
Mais comment est-ce que toi, d'accord, diplômé, surdiplômé, en quelques aussi facilement, aussi rapidement, se trouve dans les à conseiller le grand boss? Tu lui donnes un supplément d'âme, une espèce.
Voilà, je lui faisais des petites notes de synthèse.
Une profondeur de champ intellectuel.
Voilà, il n'avait pas le temps d'en avoir, donc je lui en donnais.
Donc, a priori, tu rentres là-dedans, t'es content, t'es bien payé?
Je suis bien payé, oui, je suis payé à peu près au départ, je dirais 2500 euros. Par mois, donc pour un premier job, c'est pas mal.
Avec quel âge?
J'avais 26 ans.
26 ans, 2500 euros, pas mal.
Pas mal, mais à l'échelle du cabinet, c'est vraiment pas grand-chose. Un associé peut être payé 150 000 euros par mois.
Au fond, il y a un moment, tu descends de ton vélo pour te regarder pédaler, hein, et tu commences à avoir envie de raconter ce qui se passe autour de toi. Tu es un passager clandestin.
Oui et non, parce que je rentrais bien dans le schéma quand même au départ. Les 6 premiers mois, je travaillais beaucoup, mais il y avait ma petite voix de chercheur qui me disait « c'est quand même un univers assez intéressant, il y a une réalité sociale là qui ne dit pas son nom, mais qui est très réelle ». Là, l'intérêt, c'était d'être dans cet univers et d'écrire dessus, chose assez originale. Certaines personnes trouvent que bon, j'aurais craché dans la soupe, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque ma thèse c'est pas un travail de dénonciation d'une réalité épouvantable, c'est un travail scientifique objectif comme un autre.
Voilà le genre de cadre nécessaire à ces entreprises, musique classique, musique de distinction. Il faut absolument que tout ça se fasse dans la distinction afin que vous compreniez bien que vous êtes des tocards, vous êtes des ringards, vous êtes des perdants, des géniards et des pleurnichards. Ici, vous êtes dans le monde des hop, vous êtes dans le monde des gagnants, vous êtes dans le monde des winners. Voilà où nous sommes aujourd'hui avec donc, là pour l'instant on a rencontré deux repentis de cet univers, et puis Vincent Petitet donc qui a fait cette étude sociologique sur ce monde là de l'intérieur. Il a vécu, il a travaillé à l'intérieur de dans les cercles très très proches du pouvoir de ces entreprises, et il a tiré donc une thèse, mais bien sûr avec toute l'objectivité scientifique. On sait ce dont il retourne de cette objectivité scientifique. Les scientifiques ne sont pas plus objectifs que vous et moi. Vincent Petitet.
Alors quand je suis arrivé chez Merton, moi j'ai dû rédiger un message qui était un message sur le dress code pour leur conseiller de la façon dont ils devraient s'habiller quand ils allaient chez le client. C'est-à-dire que certains consultants allaient chez le client d'une façon un petit peu trop décontractée. Donc on désirait qu'ils aient une image qui véhicule l'image du cabinet, mais d'une façon un petit peu glorieuse. Donc un beau costume plutôt sombre, avec une cravate plutôt sombre, une chemise claire. Donc il y a un ajustement qui se fait assez progressivement des uns par rapport aux autres. Alors des fois ça peut être un peu violent, parce que il y a certains consultants ou certaines consultantes qui vont rappeler à l'ordre un de leurs collègues qui sent la transpiration, il est mal sapé, mais sinon c'est plutôt implicite.
Le 45 tours par exemple, j'ai lu ça quelque part.
Le 45 tours sous les aisselles, donc c'est les auréoles de transpiration sous les aisselles, quelque chose d'absolument inacceptable.
T'as commencé à employer des mots comme dress code, etc. Il y a cette novlangue.
Oui, c'est un langage vraiment très anglicisé. Au départ, on a un peu de mal à comprendre quand on nous parle de staffing, de pricing, de networking talks ou de knowledge management. On comprend pas non plus. Donc le langage se modifie petit à petit pour justement rendre les procédures assez uniformes. Walk out,
play out. Après, vous parlez d'une militarisation, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois extrêmement violent, un monde extrêmement violent, mais très sympathique, très, très cool en apparence.
La militarisation, c'est un terme qui m'est venu aussi du fait que, finalement, les consultants eux-mêmes s'appellent des petits soldats, ou disent-nous les GIs, Et par ailleurs, ce sont des gens qui sont mobilisables tout le temps. C'est-à-dire que il y a une mobilisation infinie des individus dans ces univers de conseil. Ils sont mobilisables pourquoi ? Parce que quand ils vont chez eux, ils peuvent se connecter. Quand ils vont chez eux, on peut les appeler. C'est des gens qui vont travailler jusqu'à 3h du matin. Ils seront mobilisés sur une mission jusqu'à 3h du matin. Bien sûr, ils vont avoir des primes, ils seront très bien payés. Mais la contrepartie, c'est travailler tout le temps pour l'organisation.
C'est eux qu'on voit dans les pubs, c'est eux qui montent dans les belles voitures qu'on voit dans les pubs, c'est eux qui sont dans les paradis qu'on nous montre dans les pubs, avec les femmes magnifiques qu'on nous montre dans les pubs. Donc c'est un monde exemplaire.
Oui, mais ce sont des gens qui mobilisent un capital intellectuel, je dirais, puisqu'ils sont tous surdiplômés, grandes écoles, etc. Et puis un capital financier, parce qu'ils sont très bien payés. Donc ils développent comme ça une image de Superman des affaires. En plus, les missions de conseil ou d'audit font que la personne qui se présente comme consultant ou auditeur a tout de suite cette image d'expert. C'est celui qui sait, c'est celui qui a la connaissance. Donc, ça renforce justement ce qu'on pourrait appeler le corps glorieux du consultant et du représentant du monde du conseil.
Le corps glorieux ?
Ben oui, c'est un corps jeune, c'est aussi un symbole de réussite, c'est un symbole de réussite financière, intellectuelle, donc c'est quelque chose d'extrêmement glorieux, d'extrêmement valorisant. Le monde du conseil est un monde enchanté et enchanteur, qui joue sur des mythes et des mythologies, donc mythologie de la réussite, mythologie de l'argent. Donc quand on rentre dans cet univers, un des slogans c'est « Passion for excellence », donc la passion de l'excellence, on est quand même séduit, c'est quand même très valorisant.
Alors on a parlé de la domestication des corps et la domestication des esprits. À partir de quand est-ce qu'on peut observer vraiment une soumission totale à cette autorité floue?
Je parlerai peut-être pas de soumission, mais plutôt de servitude volontaire. Ça peut être l'acceptation de la hiérarchie, qui devient beaucoup plus facile. Ça peut être aussi l'acceptation de l'évaluation à la fin de l'année. On accepte d'être évalué par le manager parce que c'est le manager. On accepte la sanction, on accepte de se faire traiter un petit peu de nul, sans rien dire. Donc on va être critiqué, pas forcément sur nos qualités professionnelles, mais sur nos qualités humaines. On va plus dire Vincent, c'est pas un bon ingénieur, il travaille pas assez vite, mais on va dire ouais Vincent, il travaille pas bien, il est jamais content, il est grognon. Donc petit à petit, la relation de ce travail va se resserrer pour se situer sur un plan plus individuel et plus personnel. Mais c'est là aussi le rôle de l'entreprise de sélectionner les plus forts.
C'est la sélection des plus forts, c'est un darwinisme social.
C'est un darwinisme du monde des affaires.
Walk on, play on. Walk on, play on.
Enfin, être avocat d'affaires, être consultant, être auditeur, être banquier, c'est pas des métiers dont on rêve quand on est petit. Quand on est petit, on a envie d'être pilote de chasse, d'être juge, d'être chirurgien ou d'être pompier. On n'a pas envie de faire du chiffre, on n'a pas envie de devenir un professionnel des contrats ou de fusionner des entreprises. Et c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert en fait en grandissant dans ce milieu-là. Quand on parle de performance, de concurrence, c'est un peu le upper out. Ce sont des entreprises, enfin, ce soit des banques, des cabinets, qui ont une structure pyramidale. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde et chaque année, il faut dégraisser. Et quelque part, ça vient en contradiction avec l'esprit de famille qu'on essaie de faire naître dans ces entreprises où on se protège les uns les autres, mais en même temps, on se fout des petits croche-pattes vilains.
Petit croche-patte vilain, c'est Olivier qui parle. L'air de rien, il est très gonflé, Olivier. Ce qu'il fait là, ça a l'air, d'accord, c'est un gars qui critique le milieu dans lequel il a travaillé. Oui, mais il est grillé. Il est grillé. On avait rencontré ça, si vous vous souvenez, avec les virés de chez Enron à Houston, qui hésitaient à parler. Pourtant, Dieu sait si leur situation était absolument révoltante, mais ils hésitaient à parler et à se plaindre parce qu'ils craignaient de ne pas être repris par d'autres entreprises du coin qui observent tout ce cheptel, et celui qui l'ouvre trop, qui réclame trop, qui réclame simplement ses droits, il réduisait d'autant ses chances de retrouver un emploi dans la région. Dans le coin, coin, enfin dans les entreprises autour de Houston. Et ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est ce garçon, ben il a du courage, il a fait son choix. Ça a l'air d'être un courage minuscule, et pourtant, par rapport à ce milieu, c'est un grand courage. Tout comme l'étude de Vincent Petitet, faite de l'intérieur, bien sûr, qu'il y a des sociologues comme Vincent de Goljac ou des gens comme ça qui étudient le monde de la gestion et qui critiquent ceci pour améliorer, pour rendre ça plus gentil, plus humain, etc. Mais une critique aussi radicale de l'intérieur, eh bien, il y en a très très peu, alors qu'il s'agit, on l'a compris, d'un monde extrêmement influent, extrêmement important, extrêmement puissant, emblématique et symbolique de notre époque. C'est là que se fait notre époque. Ceux avec qui nous sommes sont les petits soldats. Et c'est tout à fait comparable d'ailleurs à une armée. La métaphore revient très très souvent. C'est les commandos avancés. Ce sont les francs-tireurs du néolibéralisme.
Plus on monte en hiérarchie, plus c'est méchant entre les gens. Mais il faut jamais se plaindre. Il faut toujours être enthousiaste.
Non, attends, on est des héros, quoi. On n'est pas là pour se plaindre. Se plaindre, c'est bon pour les victimes. Nous, on est des tueurs, quoi. Un tueur, ça se plaint pas, hein. Bah, c'est un milieu où moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de conscience politique, ou alors des idées politiques gentiment à droite, bon teint quoi. Non, il y a des figures, figures repoussoires, donc c'est le fonctionnaire et le prof, parce qu'ils sont toujours en grève, ils foutent rien, ils sont aux 35 heures. Donc la grosse blague, c'est qu'on a essayé, quand ils sont passés aux 35 heures, ils ont dû se mettre à travailler plus parce qu'eux ils étaient déjà à 29. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est des figures repoussoires. Donc, qui s'opposent à la figure du héros, du héros consultant, qui, lui, ne compte pas ses heures, qui bataille jusqu'à la fin et qui s'investit avec passion dans son travail. Et, c'est ça, l'opposition, quoi. Tu ne vois pas Napoléon, en plein milieu de la bataille d'Austerlitz, dire « Bon, il est 5 heures, là, il faut que j'y aille. » C'est ça, leur image, quoi. Ils sont dans la bagarre, quoi. Ils sont dans un combat. Donc, le vocabulaire dont on parlait tout à l'heure, il y a énormément de références à un lexique de la violence. Moi, j'ai connu quelqu'un qui disait « Tiens, lui, il veut pas faire ça, bah faut le fouetter. Faut mettre les gens dans la seringue. » Ça veut dire mettre les gens sous pression. Ou alors, faut aller au contact. En fait, on se rend compte qu'on est comme ça tout le temps. On est excité par ces expressions violentes qui nous galvanisent, quoi, hein, qui nous font de nous des bons petits soldats prêts à en découdre avec n'importe qui sera pas d'accord avec notre mission. Il faut être comme ça, très énergique, très mobilisé, très motivé tout le temps.
Je connais la réputation de certains de nos confrères, mais nous, chez McGregor, on voit pas les choses de cette façon. On considère le management comme un échange de compétences et pas comme une décision imposée. Notre objectif est de vous aider à améliorer votre performance et de vous donner les moyens de tirer le meilleur de vous-même pour parvenir au progrès permanent, à savoir permettre à chacun de devenir autonome, responsable et impliqué dans l'évolution de l'entreprise. Le progrès permanent, c'est comme un moteur de Formule 1. C'est long à concevoir, délicat à régler, mais quand ça marche, c'est le top. Alors évidemment, on va pas vous faire passer du jour au lendemain d'une voiture de ville à une F1. Mais on est là pour que chacun d'entre vous puisse un jour la piloter en champion. Parce que cette Formule 1, mais c'est votre entreprise de demain.
Et pour ceux qui trouvent que la Formule 1, c'est dangereux, alors qu'est-ce qu'ils font ?
La structure de la production, enfin l'usine, elle va être complètement modifiée. Il y a un quart des effectifs qui vont virer. Ça veut dire 80 personnes qui vont être dehors.
C'est dégueulasse.
Ça va, hein. La morale, je la connais.
Tu vas le faire ?
Qu'est-ce que je fasse ? Que je me casse ?
Ah ouais ?
Ah ouais, facile.
Je sais pas si c'est facile. Tu me demandes mon avis, je te le donne.
Mais si je me casse, un autre le fera. Et moi, j'aurais foutu ma carrière en l'air, hein ?
Qu'est-ce que tu crois qu'avec tous tes diplômes, tu vas te retrouver à la rue ?
Bah, j'en sais rien. Mais une démission après 3 mois chez McGregor, je te jure, c'est pas très classe.
Hein. Et virer 80 personnes, ça fait classe ?
Bah, plus que tu crois, malheureusement.
Je comprends pas pourquoi t'acceptes. C'est pour l'argent.
Pourquoi t'en as pas besoin, toi, de l'argent ?
Sûrement pas à ce point-là, non.
Ouais, bien sûr.
Que nous reprenions ensemble notre devise.
Walk out, play out.
Work hard, play hard.
Work hard,
On voit que ça vous plaît beaucoup, amis auditeurs. Aussi continuera-t-on demain. Play hard work, hard up and out. Un reportage d'Olivia Gesbert. On est très intéressés sur ce sujet d'avoir vos témoignages et vos réactions. Je rappelle le numéro du répondeur de la base J'y suis. 01 56 40 37 37. Je répète, réactions et témoignages. On est très intéressé. Le film de Jean-Marc Moutou dont j'ai parlé, dont nous entendons actuellement des extraits, ces violences, des échanges en milieu tempéré, le bouquin de Vincent de Gaulle-Jacq, La société malade de la gestion, idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. C'est quoi, passer une bonne soirée. C'est aux éditions du Seine. Non, c'est un bouquin tout à fait passionnant. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Patrick Henry et Philippe Jurado. L'équipe de La Basse, j'y suis, c'est Pascal Pascariello, Christophe Imbert pour le répondeur, dont je répète à nouveau le numéro 01 56 40 37 37. La musique et choix musicaux et tout Yann Chouquet, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Au bout de 47 secondes de pub, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. On se retrouve nous demain à 17h. Hop or out.